Bienvenue dans notre émission à la bonne heure. Aujourd'hui, nous allons parler de reconversion professionnelle. Et Dieu sait si on en entend parler. Beaucoup de gens se posent la question. Et on est à une époque, c'est vrai. Moi, je me souviens, les générations passées, les carrières étaient linéaires. Et tout était linéaire, d'ailleurs. Le mariage, le lieu d'habitation. Et maintenant, à la fois, on a l'émergence aussi de nouveaux métiers. Et puis, les personnes ont envie de changer, se posent des questions par rapport à leurs valeurs, le sens de la vie et le sens de ce qu'ils font et envie de passer à autre chose. Et d'ailleurs, les chiffres le montrent, hein, parce que c'est à peu près un Français sur trois. On a environ 36% de la population active qui a connu une transition. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les 18-24 ans, donc les jeunes qui sont en début de carrière professionnelle, 34% souhaitent déjà se reconvertir. Donc c'est vraiment révélateur. Avec moi pour ce sujet, j'ai le grand plaisir de recevoir à nouveau Léa Beaurepaire. Bonjour Léa.
Bonjour Evelyne, Léa. Merci de me recevoir.
C'est un plaisir partagé. Juriste en droit du travail et coach professionnel.
Tout à fait. Donc pour me présenter brièvement, juriste en droit du travail et coach professionnel, et j'ai travaillé d'abord en cabinet d'avocat, puis au sein d'une direction des ressources humaines d'un groupe RH, et je gérais toute la journée des conflits entre des salariés, des managers, les départs de l'entreprise, les réunions CSE, et j'étais tous les jours témoin de salariés qui étaient en mal-être au travail, et je me suis dit qu'il me manquait vraiment des outils pour pouvoir mieux les accompagner, car je n'avais que la casquette de juriste finalement, donc j'ai été me former au coaching en école, et aujourd'hui donc j'ai quitté le salariat et j'accompagne les entreprises et les salariés à avoir une vie professionnelle épanouissante et vers le bien-être au travail. Donc je propose différents types d'accompagnement, donc pour les entreprises des ateliers de sensibilisation au harcèlement, aux risques psychosociaux, du coaching aussi de situations de crise ou du coaching pour améliorer le management, et pour les particuliers, du coaching pour s'affirmer au travail, également du coaching pour trouver sa voie professionnelle ou faire une reconversion, également du coaching pour améliorer son management, et également des accompagnements juridiques pour partir par exemple de son entreprise vers une nouvelle vie professionnelle. Et sinon, je suis basée à Paris, mais je travaille également en visioconférence. Voilà ce que je peux vous dire sur moi.
Super, et bien avec tout ça, hein, ça donne envie. Donc la reconversion, on pourrait peut-être un petit peu démystifier cette reconversion professionnelle, parce que généralement, souvent, on a tendance à penser à un virage à 180 degrés, et il y a différentes reconversions.
Oui, bien sûr. Alors, selon moi, il n'y a pas une reconversion, mais des reconversions. Et finalement, chaque reconversion est un petit peu unique. Et c'est vrai qu'on a parfois des idées reçues d'une manière générale qu'une reconversion professionnelle, comme vous le dites, c'est un changement à 360 degrés. Donc, par exemple, quitter son poste de cadre à la Défense pour aller élever des chèvres, par exemple, au fin fond du Cantal. Quitter son pays pour recommencer une vie professionnelle de zéro sous les cocotier. Donc ça peut arriver, mais on peut aussi avoir des reconversions où on n'a pas besoin de faire un énorme pas comme ça. Donc par exemple, ça peut être une consultante RH qui s'oriente vers de la médiation en entreprise. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas une reconversion, mais plusieurs chemins possibles.
Oui, et qui sont des évolutions professionnelles et pas forcément une remise en cause complète par rapport à ce qui a déjà été exercé comme profession, mais quelque chose qui peut être dans la même veine, mais avec une mise en forme différente.
Complètement, ça peut être tout à fait complémentaire. Et moi, j'aime bien utiliser le terme de transition professionnelle, car selon moi, nos aspirations professionnelles, elles peuvent évoluer tout au long de notre vie. Et on peut décider d'opérer une transition d'une vie professionnelle à une nouvelle, finalement sans limite et durée aussi.
Et il y a toujours, je pense toujours, des signes qui annoncent cette transition ou cette reconversion.
Tout à fait. Alors on peut regarder plusieurs signes. Déjà, votre état en vous levant le matin. Est-ce que vous vous levez le matin sans entrain et vous n'êtes pas heureux ni plein d'énergie pour démarrer votre journée ?
Et donc, pas du tout envie d'y aller.
Voilà, tout à fait. Donc on peut déjà regarder ça. On peut aussi regarder votre état à la fin de la journée. Donc une fois que vous avez terminé votre journée de travail, est-ce que vous êtes satisfait et content de votre journée ou est-ce qu'au contraire vous n'êtes pas satisfait ? Et ça de manière récurrente, donc au fil des jours et des semaines.
Je pense aussi à l'état physique. Parce que si, quand on dépense une énergie à lutter contre quelque chose, ce travail qui ne nous plaît pas, quelque part, il y a une lutte intérieure. Donc évidemment, ça nous prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Et du coup, on est complètement fatigué. Et ça, c'est aussi des signes. Écoutez ce qui se passe dans son corps.
Complètement. Le corps est un super messager. Donc, effectivement, si on se sent vidé de notre énergie, c'est un signe également, bien sûr, auquel c'est important d'y prêter attention. On peut aussi regarder si les journées et les semaines vous paraissent longues. Donc, est-ce que vous attendez avec impatience
le week-end,
voilà, les vacances.
C'est quand les prochaines ?
Exactement. Donc ça peut être aussi un signe. Également, regardez si vous trouvez du sens dans vos missions. Donc, est-ce que au quotidien vous vous ennuyez et vous avez du mal à trouver de l'intérêt dans les missions que vous faites ? Et si vous êtes en désaccord aussi avec les décisions qui sont prises par votre hiérarchie, ça peut aussi être un signe. Également, regardez si ce que vous faites est en alignement avec vos valeurs, parce que si vous êtes désaligné, il va vraiment y avoir un conflit en fait interne et une dissonance entre ce à quoi on croit et ce que vous faites au quotidien dans le cadre de votre travail.
Ça peut être aussi par rapport, je pense à une expérience personnelle, enfin qui était professionnelle évidemment, professionnelle et personnelle, d'alignement par rapport à son éthique. Alors dans l'éthique, il y a des valeurs, hein, évidemment, mais moi j'ai travaillé dans la banque qui faisait du crédit à la conso, et j'avais énormément de mal par rapport à ça, par rapport à mon éthique, et ça a été très très compliqué à un moment donné dans ma tête.
Complètement. Mais effectivement, c'est un signe qui est très important aussi. Est-ce que finalement, la mission qui est véhiculée par l'entreprise vous parle aussi et en alignement avec vos valeurs, ou est-ce que c'est totalement en désalignement ? Donc par exemple, je sais pas, travailler pour Total et vous avez une très forte aspiration pour l'écologie.
Environnementale, oui.
Voilà, environnementale, ça peut créer un conflit interne. Donc tout à fait, c'est très important.
Et si on a du mal à le trouver, j'allais dire mentalement, en analysant, il y a peut-être des petits outils à suggérer pour ça ?
Oui, bien sûr, pour trouver ses valeurs ou...
Pour justement se dire, est-ce que je suis bien dans ce travail-là par rapport à ce qui me correspond en sentant ce mal-être ? Il y a peut-être quelque chose qu'on peut évoquer, par exemple, je devais vivre le dernier jour.
Oui, bien sûr, oui,
de
oui,
ma
alors...
vie.
Tout à fait. Alors moi, il y a deux questions que j'aime beaucoup poser pour savoir si on se sent aligné ou pas professionnellement. Donc la première, c'est si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que je m'apprêterais à aller faire ce que je fais actuellement dans mon travail ? Et la deuxième question, donc ça peut être si vous étiez libre financièrement et que vous deviez continuer de travailler, donc que c'était une contrainte, est-ce que vous continueriez ce travail ou est-ce que vous iriez vers un autre travail ?
Tout à fait. Des bonnes questions.
À la bonne heure sur RCF et Radioactive.
Bien, Léa, nous étions en train de dire deux petites propositions, là, deux petits outils concrets. J'aime beaucoup ça, moi, pour aider. Si c'était le dernier jour de ma vie, est-ce que je ferais ce travail-là ou est-ce que je choisirais autre chose? Et puis, ça y est, j'ai mangé le deuxième, c'est...
Si vous étiez libre financièrement, mais que vous deviez continuer de travailler, est-ce que vous continueriez ce travail ou vous aimeriez un autre travail?
Oui, là, je pense que c'est facile de trouver la réponse quand des fois on se prend la tête en se disant, voyons voir mes valeurs, est-ce que je suis alignée, pas alignée, là au moins c'est du concret, c'est facile. Une reconversion, ça ne se fait pas dans un claquement de doigts, c'est quelque chose qui se prépare et c'est quelque chose qui se passe par différentes étapes.
Tout à fait. Alors, le premier step que l'on peut regarder pour faire une transition professionnelle, c'est tout d'abord un état des lieux de sa situation actuelle et évaluer son envie de changement. Donc, déjà, identifier ce qui ne va pas et ce qui va dans votre travail aujourd'hui et vraiment faire un inventaire détaillé de ces petites caractéristiques. Et moi, je vois vraiment un travail épanouissant comme un gâteau. Et ensuite, on regarde dans le détail les ingrédients qui vont faire que ce gâteau, on va l'apprécier. Donc par exemple, par rapport à l'environnement matériel de travail déjà, donc au lieu de travail, au trajet, aux locaux, au confort, au matériel mis à disposition, qu'est-ce qui vous va et qu'est-ce qui ne vous va pas. Ensuite, on peut regarder donc l'environnement social de travail, donc la relation avec toutes les personnes qui vont composer votre environnement pro, donc la relation avec votre manager, avec vos collègues, avec votre direction, avec des clients si vous en avez, voilà, l'ambiance générale, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous convient pas. Ensuite, on peut regarder aussi les missions, donc dans le détail, donc dans vos tâches au quotidien. Également, est-ce que vous avez des nouvelles missions, des perspectives d'évolution? Est-ce que vous avez une variété ou est-ce que justement c'est très récurrent et routinier?
Et ça peut être aussi, qu'est-ce que, en fin de compte, est-ce que je travaille en autonomie, ce que j'aime, et en fin de compte, pas vraiment ma part de prise de décision, le fait de travailler en équipe ou en solo, ou ça peut être j'aime bien les deux, mais j'ai une préférence pour l'un, donc c'est bien qu'il soit dominant. Ces questions-là aussi.
Oui, complètement. Effectivement, c'est très important. Par exemple, pour une personne qui va adorer travailler en équipe, si elle se retrouve dans un travail où elle est majoritairement seule et en autonomie, bah, ça peut ne pas lui convenir du tout, alors qu'elle aime ses missions. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est important vraiment de regarder dans le détail chaque ingrédient, puisque en fonction de chaque personne, eh ben, y a des critères qui vont être plus ou moins importants.
Et puis, pour des mêmes missions, ça peut être aussi un paramètre auquel je pense, vous avez parlé de l'environnement, travailler dehors, travailler à l'intérieur. On peut avoir des missions, en fin de compte, sur le fond qui se ressemblent, mais une personne travaille dans un bureau et, en fin de compte, elle s'aperçoit qu'elle préférerait nettement être en extérieur.
Complètement. Et je suis complètement d'accord. C'est un paramètre important
hyper
à regarder.
Hyper important. Hein. Complètement. C'est déjà le lieu physique, en dehors de... Déjà, quand on est dans le bâtiment, à proprement parler.
Tout à fait, oui. Puisqu'effectivement, il y a des personnes qui préfèrent travailler dehors ou bouger aussi à l'extérieur et qui vont avoir, et puis ça, c'est vrai que c'est le sujet aussi de notre société actuelle, du mal à rester devant un ordinateur toute la journée. Donc, effectivement, c'est un paramètre très important. Et on peut aussi regarder, donc, la charge de travail, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui soient, sont dans des cas de burn-out où ils ont une surcharge de travail, ou au contraire de bore-out où justement ils n'ont pas assez de travail. Donc c'est un peu, et ils s'ennuient au quotidien. Donc c'est un critère aussi que l'on peut regarder. Et ensuite, on peut aussi regarder, donc, par rapport au salaire et aux avantages que votre travail propose, comment vous vous sentez par rapport à ça. Puisqu'il y a aussi des personnes qui vont être mal dans leur travail puisqu'elles vont avoir un salaire qu'elles vont considérer insuffisant par rapport à leurs qualifications ou à ce qu'elles apportent au quotidien. Donc ça peut aussi être un élément important. Et quand on a vraiment regardé dans le détail donc, ces critères-là, on va regarder ensuite ce que vous voulez pour l'avenir par rapport à ces critères-là, vu qu'on a identifié ce qui vous va et ce qui vous ne va
pas. C'est chouette comme proposition, pardon, je vous interromps, parce que c'est... Là, je visualise un tableau, la colonne, on va dire, j'aime pas le mot, mais enfin, on va dire ce qui va pas, j'allais dire négatif. Donc, ce qui ne va pas, évidemment, de l'autre côté, ce qui va, et c'est facile de voir où la balance pèse, et du coup, les décisions à prendre.
Tout à fait. Et ça permet vraiment de regarder, en fait, dans chaque critère, qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir et qui vont ensuite permettre de voir si ça peut coïncider avec un nouveau métier. Donc, tout à fait. Et donc, une fois qu'on a fait ce travail-là, on va ensuite caractériser son envie de changement en intensité. C'est-à-dire, sur une échelle de 0 à 10, à combien vous vous situez dans votre envie de changement. Puisque parfois, on peut avoir des personnes aussi qui sont pas très bien dans leur travail, mais quand je pose cette question-là, finalement, ils n'ont pas forcément envie de changer. Donc, c'est important aussi de vraiment se poser cette question-là et aussi d'évaluer, que la personne, elle évalue le risque à changer ou à ne pas changer de travail. C'est-à-dire ce qu'elle gagne selon elle et ce qu'elle perd.
C'est hyper, hyper important ça. Pour avoir entendu beaucoup de personnes, moi, et dans mon entourage et que j'ai connu dans ma clientèle, c'est entre l'envie de changer et ce que ça représente comme risque, et du coup le passage à l'acte, il y a quand même un sacré pas, pour pas dire des fois un fossé, et c'est hyper important ça, parce que c'est à considérer comment je suis par rapport au risque. Il y en a un évidemment. Mais est-ce que je suis prête à prendre ce risque ou pas? Et ça ne se juge pas. C'est juste, moi, par rapport au risque, je peux avoir peur et trop de peur qui vont m'arrêter ou du moins modérer cette envie. Et ça, c'est vraiment hyper important à considérer.
Complètement. Et c'est vrai qu'on a tous des croyances qui vont être très différentes finalement, et un rapport au risque aussi qui va être très différent. Pour une personne, ça va, elle va y aller, ça va lui poser aucun souci, et pour une autre, ça va être beaucoup plus difficile. Donc après, tout le travail du coaching, c'est justement d'identifier ses croyances et de lever les freins.
J'ai un souvenir par rapport à ça, c'est marrant, je vous entends, et pouf, ça fait tilt. J'étais dans un travail, pour le coup, j'étais enseignante en BTS d'économie sociale et familiale, donc ça aurait pu être tranquille dans la sécurité de l'emploi. Quand la secrétaire de direction me dit, il y a un poste intéressant en entreprise, c'est pour toi, faut que tu y ailles, va voir, et tout. Moi j'y vais, mais j'allais dire les mains dans les poches, puisque j'étais en situation professionnelle, donc je n'avais aucun risque, et je me retrouve là devant une brochette de dirigeants, ils étaient au moins 4 je crois. Et à un moment donné, le DG me dit, mais vous êtes prof, donc vous avez de la sécurité de l'emploi, et le fait de vous retrouver, évidemment, en entreprise, poste privé, aucune sécurité d'emploi, il me dit, ça vous tracasse pas, ça? Et alors là, moi, la réponse, elle a été mais immédiate, quoi. J'ai dit, moi, pas du tout. J'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est le job. Et là, il y avait une création de poste qui était hyper motivante et intéressante, et d'ailleurs, que j'ai acceptée. Mais c'est tout un chacun. Moi, c'est pas mon truc, la sécurité. Mais pour un autre, ça va être hyper important. Donc, c'est à prendre en considération, évidemment. Ça change tout.
Tout à fait. Et du coup, la question que ce directeur vous a posée est justement très intéressante, puisque ça peut montrer aussi, lui, sa vision. Peut-être que pour lui, c'était prendre un risque important, et vous, vous l'analysiez pas du tout comme ça.
Et je pense que c'était très important pour lui, pour déjà avoir un paramètre sur, j'allais dire, ma psychologie, un trait de caractère aussi. Elle est prête à se lancer, elle est prête à y aller, et s'il y a des risques, elle va y aller. C'est aussi révélateur dans après, ce salarié, comment il va se comporter.
Tout à fait. Et c'est vrai que donc on a tous une proportion au risque, enfin un rapport au risque qui est différent. Mais après, tout l'intérêt, c'est vrai, du coaching. Moi, j'ai des personnes en séance qui vont avoir plus de blocages, par exemple, à se lancer, même si on prépare bien le terrain. Puisque moi, j'aime bien dire aussi que une reconversion professionnelle, une transition professionnelle, c'est pas forcément sauter dans le vide. On peut préparer un filet de sécurité, le faire en douceur. Et même pour les personnes pour qui c'est compliqué, moi, j'aime bien aussi faire un petit exercice où on voit les pires scénarios, entre guillemets, parce que généralement, quand on a du mal à se lancer, c'est qu'en fait, on s'imagine le pire, donc se retrouver sous un pont, ne pas avoir de revenus. Il y a souvent la peur du manque. Et en fait, en général, quand on fait le pire scénario, je fais toujours trouver des solutions. Et en fait, la personne, elle réalise qu'il y a toujours des solutions et qu'elle ne sera jamais dans une situation dramatique.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a les ressources. Elle n'en est pas consciente, mais elle a les ressources. En fin de compte, elle a déjà vécu des situations où elle a fait front. C'est hyper, hyper fréquent, ça.
Complètement. Et on peut toujours aussi trouver d'autres ressources quand on est en situation des fois nouvelle ou plus difficile.
Bien. Alors, ces étapes hyper importantes, on le voit, et ça, c'est chouette d'avoir brossé tout ça, parce que ça permet aux personnes qui nous écoutent, qui peuvent être concernées, ou quelqu'un de l'entourage, de déjà faire ce petit récapitulatif et de se rendre compte, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller, besoin d'y aller, et comment je fais. Et vous avez un exercice intéressant aussi à proposer, Léa, le Vision Board.
Oui, alors tout à fait. Alors, pour moi, visualiser sa vie rêvée, c'est hyper important pour un projet de reconversion, puisque pour y voir plus clair sur votre futur professionnel, tout part toujours d'une vision globale de vie, car sans vision, c'est difficile d'avancer. Donc moi, j'aime bien donner l'exemple, par exemple, d'un marin sur son bateau, il navigue jamais sans cap, sinon il sait pas...
Il va tourner en rond longtemps, la Terre est en ronde.
Exactement, donc il sait pas où il va aller. Donc pour un nouvel objectif professionnel, donc c'est la même chose. Et un potentiel nouveau projet professionnel s'inscrit aussi toujours dans un projet de vie global, car forcément, le métier que vous exercez aura forcément un impact sur votre vie privée aussi.
C'est d'autant important que c'est maintenant d'actualité. Et ce qui fait qu'il y a de plus en plus de reconversions professionnelles, c'est qu'avant, on sacrifiait beaucoup les générations précédentes, et même la mienne d'ailleurs, le travail. Et la vie privée était assez souvent malmenée et mise en second plan. Et maintenant, les jeunes, et tant mieux, veulent équilibrer leur vie et que, ok, c'est parfait si j'ai une passion professionnelle, mais en tout cas j'ai un métier, d'accord, mais j'ai aussi ma vie perso à côté. Et il y a cet équilibre qui est recherché. Et ça, c'est top. Et c'est à voir comment je peux conjuguer les deux.
Complètement. On est vraiment dans une époque où les nouvelles générations recherchent vraiment un équilibre de vie et où toute la vie ne tourne pas autour du travail. Il y a le travail, c'est bien, mais on a aussi notre vie personnelle pour faire d'autres activités, pour développer d'autres choses.
La famille, etc., le couple, effectivement. Et ça évitera peut-être des départs à la retraite catastrophiques où le monde du travail s'écroulait et il n'y avait plus rien derrière.
Effectivement, complètement.
Si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, crier ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
L'émission qui fait du bien à la bonne heure sur Radioactive et RCF.
On se retrouve dans notre émission à la bonne heure sur la reconversion professionnelle avec Léa Beaurepaire. Merci Léa pour ce choix musical est le vôtre. Et c'était vraiment, oh, quelle berceuse.
Oui, j'adore cette musique. Et pour toutes les personnes qui se sentent un petit peu dans le flou, dans le brouillard actuellement, dans leur vie professionnelle, je trouve que c'est un beau message. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Donc, de belles choses sont à prévoir pour vous.
Magnifique. Donc, vous commenciez à nous évoquer votre vision board. Maintenant, on pourrait peut-être en savoir davantage. Qu'est-ce que c'est que cet outil ?
Oui, alors donc j'aime beaucoup faire cet exercice du vision board avec les personnes que j'ai en séance parce que je trouve qu'il est très ludique et généralement il y a plein de belles choses qui sortent. Donc l'exercice du vision board, c'est quoi ? Donc vous pouvez le faire soit sur votre PC ou soit à la main. Donc vous prenez une grande feuille, une grande
très
feuille
grande.
À 4.
Moi, oui. Je l'ai fait aussi en formation de coaching.
Oui.
Très grande
en format
feuille,
un peu tableau.
Format tableau, paperboard.
Voilà, paperboard, tout à fait. Et donc si vous le faites à la main, donc vous découpez plein d'images.
Dans des magazines, qu'on trouve voilà. Dans des magazines divers et variés. Si on n'en a pas chez soi, on va en chercher chez des commerçants, des coiffeurs qui en entassent, ou que sais-je.
Oui, complètement. Ou alors, sinon, vous pouvez aussi imprimer des photos. Voilà, vous faites comme vous voulez. Donc, vous découpez des images. Et moi, j'aime bien poser des questions. Donc, dans votre vie idéale, vous vous réveillez dans quel environnement, avec qui, vous faites quoi comme activité professionnelle. Vous ressemblez aussi à quoi ? Donc pour faire projeter la personne, à quoi ressemble mon cadre de travail ? Et donc du coup, bah, vous découpez ces images et vous construisez votre vision board. Et généralement, il y a plein de déclics qui viennent et il y a plein de belles choses qui sortent. Donc ça permet un peu d'avoir une vision de sa vie idéale et de donner justement un cap.
Tout à fait, et ça peut permettre des prises de conscience parce que là on part dans l'image, on part dans quelque chose de ludique, donc on lâche avec notre analyse mentale et de regarder ensuite cette construction, je dirais, de photos collées les unes à côté des autres, c'est très, d'ailleurs c'est pas innocent lesquelles on pose à côté, inconsciemment à côté desquels autres, et ce qui en ressort, c'est hyper intéressant. Oui, tout à
ouais,
fait,
complètement,
très
et
chouette
comme... Complètement. Et comme vous le dites, Evelyne, ce qui est intéressant, c'est justement de lâcher le mental et de vraiment laisser vaquer son cœur aussi. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie, sans limite, sans se dire par rapport à mes compétences, à ce que je sais faire, à ce qu'on m'a dit, de vraiment lâcher ça et de s'amuser aussi avec l'aspect ludique.
Tout à fait. Puis après, qu'est-ce que je vais faire ? Et il y a aussi quelque chose d'autre à lâcher qui est hyper, pour le coup, j'allais dire castrateur. Là, on part dans l'excès inverse. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est notre héritage, nos croyances, notre héritage familial et nos croyances, ce qui a été véhiculé par rapport à la valeur du travail.
Complètement. Alors c'est vrai qu'il peut être intéressant quand vous faites un travail pour changer de voie professionnelle, de faire une rétrospective dans le passé sur la vision qui vous a été transmise du travail par votre famille, car le discours tenu dans votre famille a pu générer des croyances ou des peurs vis-à-vis du travail. Donc les questions que vous pouvez vous poser, c'est vraiment qu'est-ce que vos parents ont voulu vous transmettre déjà volontairement sur le travail, sur trouver un métier. Donc qu'est-ce qu'ils vous ont dit déjà à voix haute ? Puisque d'une famille à une autre, le discours va être très différent. Des fois, on peut avoir un discours qui va être très dur au niveau du travail. Dans d'autres familles, un discours beaucoup plus libéré. Donc déjà, on peut vraiment se poser cette question-là. Ensuite, se demander aussi qu'est-ce que votre figure parentale vous a montré comme propre modèle. C'est-à-dire ce que vos parents vous transmettaient aussi inconsciemment sur le travail et ce qu'ils en disaient aussi de d'autres personnes. Et eux, leur propre vision du travail et leur propre comportement aussi vis-à-vis de leur propre travail. Donc ça peut être intéressant aussi de questionner ça. Et à partir de ces discours et de ces messages aussi qui peuvent être transmis de manière inconsciente, qu'est-ce que vous avez décidé pour l'avenir ? Est-ce que vous avez dit « je ne ferai jamais ça » ou « je serai toujours dans tel chemin professionnel » ? Donc ça peut être vraiment intéressant de se questionner sur qu'est-ce que j'ai décidé ?
Oui, je pense même que vous parlez d'inconscient, au niveau de l'inconscient, de regarder les métiers qu'exerçaient nos parents, et voire grands-parents, parce qu'il y a des reproductions inconscientes, des attentes supposées de la part de nos parents, et de reproduire ou de se dire au contraire, ah non, mais je ne ferai jamais ça, lui il était, je ne sais pas moi, il était médecin, jamais je serai médecin, parce que je sais pas, il rentrait à pas d'heure, on le voyait jamais, j'en sais rien, voilà. Et c'est intéressant ça aussi.
Complètement, effectivement, de remonter aussi les générations, donc ça peut être parents, grands-parents, arrière-grands-parents, et de questionner justement effectivement ce rapport au travail, donc le discours, mais aussi les comportements, ce qui est vraiment véhiculé complètement, et de voir si on est aussi dans une reproduction peut-être inconsciente, ou alors justement on a pris complètement le contre-pied, on est à l'opposé, donc c'est vraiment...
Et des attentes des fois très très fortes de la part d'un parent qui n'a pas pu exercer le métier qu'il aurait voulu idéalement exercer, et qui fait tout, consciemment ou pas, mais pour que ce soit de manière explicite ou implicite, pour inciter son enfant à aller dans cette profession-là, enfin c'est hyper important aussi ça.
Ouais, complètement. On retrouve ça aussi dans beaucoup de familles. Et c'est vrai que par exemple, donc une personne qui va avoir eu un discours de ses parents sur l'importance, par exemple, de trouver un CDI, d'acheter une maison, d'avoir un emploi, par exemple, dit stable dans un domaine qui recrute. Cette personne-là, si elle a envie, je sais pas, d'ouvrir son entreprise, bah elle pourra peut-être avoir des freins qui vont être plus importants qu'une autre personne, puisqu'elle aura eu le discours que bah, c'est important d'avoir un métier stable, donc bah, par opposition, l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques disproportionnés, c'est pas bien, ça peut être dangereux. Donc effectivement, c'est important vraiment de questionner l'héritage familial.
C'est sûr, c'est quelque chose à bien prendre en considération. Et puis autre chose aussi qui est important, on a parlé des valeurs tout à l'heure, mais de bien cerner qui je suis moi, et là aussi il y a des exercices à faire, quels sont mes besoins et quelles sont mes valeurs. Mais les valeurs, c'est notre socle, c'est ce qui est incontournable pour nous. On ne peut pas passer à côté, par exemple la valeur du respect, je me sens respectée, je me sens pas respectée, la valeur de le travail, c'est une valeur aussi, bon après voilà, on vient de voir comment c'est véhiculé pour moi par rapport à mon héritage, la valeur de l'amour, enfin voilà, c'est ça les valeurs, et c'est hyper important de les prendre en considération aussi.
Complètement. Alors c'est vrai qu'un travail qui ne va pas combler nos besoins ou qui n'est pas aligné avec nos valeurs, ça va forcément pas coller, quand bien même vous pouvez apprécier vos missions, puisque c'est vraiment un socle qui est très important.
À la bonne heure sur RCU Active. Evelyne Delpech.
Donc vous disiez, Léa, autre chose à prendre en considération de très très important, c'est quels sont mes besoins et quelles sont mes valeurs, mes incontournables, pour que ce travail me soit adéquat.
Complètement. Alors c'est vrai que se questionner sur ses besoins, c'est se questionner finalement sur ses priorités dans son travail. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de se demander qu'est-ce que vous recherchez en priorité dans un travail. Donc est-ce que ça va être par exemple la reconnaissance, ça peut être l'argent, la sécurité, la liberté, le challenge, est-ce que ça peut être le sens, l'impact, les rencontres. Donc vraiment se questionner sur qu'est-ce qui est prioritaire pour vous, parce que d'une personne à une autre, on va pas rechercher les mêmes choses, puisqu'on va pas avoir les mêmes besoins aux mêmes endroits. Ensuite, ce qui peut être très intéressant, c'est aussi d'identifier vos valeurs. Donc une valeur, c'est quoi? C'est vraiment ce qui forme votre système de référence et qui va vraiment donner un sens, une orientation à votre vie. Et en déterminant vos valeurs, bah, vous déterminez aussi qui vous êtes, ce que vous voulez et comment vous vivez. Donc pour identifier ces valeurs et pour les trouver, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Donc qu'est-ce qui n'est pas négociable pour vous-même, même contre de l'argent, contre de la gloire, contre de l'amour? Donc qu'est-ce qui est non négociable? Vous pouvez ensuite vous demander qu'est-ce qui vous donne mauvaise conscience quand vous ne le faites pas.
Ou quand vous le faites.
Oui.
On vous fait faire quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs et du coup, vous avez mauvaise conscience.
Tout à fait. C'est dans les deux sens, complètement. Et vous pouvez également repenser à une expérience de votre vie qui a été particulièrement révoltante pour vous. Donc, quelque chose vous a forcément fait réagir pour que vous disiez que c'est vraiment révoltant pour vous. Donc, cette évaluation, elle s'est vraiment faite par rapport à une valeur que vous aviez. Donc, c'est intéressant vraiment d'identifier laquelle.
C'est encore des points importants. On voit que petit à petit, on est en train de construire tout ce maillage et que tout ça c'est complémentaire et que ce sont des incontournables et que ce cheminement vers la reconversion se fait, comme vous le disiez tout au début, étape par étape, et on ne fait pas ça brutalement. C'est aussi rassurant d'ailleurs, hein, parce que c'est un temps de préparation. On ne va pas y aller, comme diraient les jeunes, one again. On va y aller doucement mais sûrement. Alors pourquoi pas, hein, y aller brutalement, mais il faut être sûr de soi, de ce dont on a envie. Mais pour rassurer les personnes que ça peut un peu effrayer, il y a de quoi, ça se construit. Et avec tous ces éléments-là, on y voit bien plus clair sur ce qu'on est, qui on est, et ce qu'on veut, et ce dont on a envie.
Et ça permet aussi de mieux se connaître. Donc,
bien sûr.
Il y a plein de bénéfices.
Eh ben, pour mieux se connaître, il y a aussi un autre point qui est vraiment incontournable, c'est justement qu'est-ce que je sais faire, où sont mes compétences. Et là, on parle, quand on parle de compétences, généralement le plan professionnel, mais il y a d'autres compétences complémentaires, et puis des qualités. Mon savoir-être est important aussi.
Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on peut faire aussi, donc en séance de coaching, un retour dans le passé sur différentes expériences que vous avez eues, professionnelles ou pas d'ailleurs, et vraiment analyser les compétences que vous en avez retirées. Parce qu'en fait, des fois, on n'en a pas toujours conscience, mais on a beaucoup plus de compétences qu'on ne le pense. Donc ça peut être très intéressant de faire vraiment une rétrospective, et aussi de connecter avec nos talents, puisqu'on en a plein. Donc dans votre vie, qu'est-ce que vous faites par exemple avec facilité et sans effort, également sur quel sujet vos proches vous sollicitent.
Et je me permets de vous interrompre parce que ça, pour l'avoir fait maintes fois en coaching, les personnes sont souvent à sec et ont beaucoup de mal à reconnaître, il y a trop d'humilité là, quels sont leurs talents, et je ne sais pas si vous le faites, mais moi je me permets de leur dire, ben, interrogez votre entourage, ça peut être la famille, des amis, pourquoi pas des relations professionnelles, justement sur vos talents. Parce que eux vont savoir le dire sans hésitation, et ça peut être très instructif pour des talents que l'on des fois que l'on a mis sous le tapis, dont on n'a pas une conscience plus que ça, et c'est très très important de solliciter les autres.
Complètement, moi je le fais aussi, donc effectivement c'est un super exercice, et généralement ce qui est intéressant, c'est quand vous interrogez 5-10 personnes de votre entourage proche, il y a généralement des ponts qui se font, et c'est les mêmes talents qui ressortent, donc effectivement c'est très intéressant, puis ça fait aussi du bien à l'estime de soi, que nos proches reconnaissent nos talents, donc complètement on peut interroger bien sûr les proches, et généralement en plus ils ont tendance à nous solliciter un petit peu sur les mêmes sujets, donc généralement c'est qu'il y a toujours aussi un talent qui se cache derrière. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi vous demander à quel moment dans votre vie, donc pro ou perso, vous avez reçu des chaleureux, par exemple, remerciements. Des personnes qui vous remercient pour ce que vous avez fait, la manière dont vous avez été là. Donc, ça peut être intéressant de se poser la question. Et effectivement, donc, qu'est-ce que les autres aussi reconnaissent en vous comme talent ? Donc voilà, on peut vraiment faire déjà ce point-là sur les talents et les compétences.
Et les qualités, je me permets
bien sûr.
De rajouter, parce qu'un talent, c'est quelque chose qu'on en a en soi, j'allais dire, c'est, on l'avait dans le berceau, et voilà, et on est arrivé avec. Et une qualité aussi, mais elle se développe notamment par l'expérience, par la vie, par je vais développer une, je sais pas moi, une qualité d'empathie par exemple, ben ça va être avec l'exercice, et pour d'autres qualités aussi. Si j'ai un talent artistique, alors certes, il va se développer ou pas si je l'exerce, mais ça je l'avais.
Complètement, oui, effectivement, les qualités viennent aussi avec nos expériences de vie, donc c'est très important effectivement aussi de les identifier.
Autre possibilité pour s'aider à découvrir tout ça, parce que c'est pas simple hein, quand même, comme je le disais, il y a souvent une humilité à reconnaître nos points forts, alors quand on demande les points faibles, alors là, il en tombe une pelletée, et des personnes qui nous inspirent sont aussi intéressantes.
Oui, bien sûr, puisque quand on va regarder les personnes qui nous inspirent, derrière, qu'est-ce qui justement nous inspire ? Est-ce que c'est la personnalité de la personne ? Est-ce que c'est ce qu'elle fait ? Donc effectivement, c'est ce que j'appelle moi les héros ou les mentors. Et souvent derrière, il y a aussi des valeurs qui se cachent. Donc ça peut être un très bon outil pour identifier
tout
aussi.
Tout à fait. Moi, je l'ai souvent fait, d'ailleurs, d'une manière un petit peu graduelle. J'aime pas cette image, mais pour dire exactement ce que vous venez de dire. Prenez une ou deux ou trois, ou qu'une, c'est pas grave, mais vraiment une personnalité, quelqu'un de vraiment reconnu, style le Dalai Lama, le pape, le président de la République, enfin, j'en sais rien. Une personne qui vous marque vraiment, qui est hyper, hyper connue. Et pourquoi ? Et ensuite, quelqu'un, ça peut être une vedette, ou quelqu'un socialement reconnu. Et puis après, dans votre entourage aussi, quelqu'un qui vous marque vraiment par sa personnalité.
Complètement. Et du coup, ce qui est très intéressant aussi avec cet exercice, c'est que généralement, il peut y avoir aussi des ponts qui se font entre les différentes personnes, donc connues ou pas, l'on admire. Et généralement, ça en dit beaucoup, en fait, sur
nous. Tout à fait.
Donc complètement. Et c'est vrai que c'est très intéressant aussi, pour rebondir là-dessus, d'approfondir aussi ce que vous aimez vraiment. Donc ça peut être aussi quelles sont les choses sur lesquelles vous ne voyez pas le temps passer et qui ne requièrent pas d'efforts particuliers pour vous. Donc c'est ce qu'on appelle les zones de flow. Donc les zones où vraiment on ne voit pas le temps passer, où c'est simple, où c'est fluide pour nous. Également, qu'est-ce qui vous rend profondément joyeux dans votre quotidien ? Donc ça peut être, et que vous adorez aussi. Donc ça peut être intéressant de se poser la question. Quelles activités aussi vous donnent de l'énergie, vous mettent en haute énergie? Quelles expériences aussi vous voyez vivre dans votre semaine ou dans votre journée idéale? Aussi, quels sont les sujets qui vous passionnent et que vous aimez au quotidien? Qu'est-ce que vous aimez apprendre aussi, tout simplement? Et effectivement, quelles sont les personnes qui m'inspirent? Et j'aime beaucoup aussi demander, quand vous étiez plus jeune, vous vous imaginiez travailler dans quoi? Parce que généralement, donc, quand on est plus jeune, on est moins dans la case mentale. Et il y a des choses très intéressantes qui peuvent ressortir quand on fait justement un travail sur quand j'étais enfant, je rêvais d'être quoi?
C'est vrai ça, hein, parce qu'il y a souvent un écart. Il y en a qui ont réalisé leur rêve d'enfant. Et puis il y en a, le rêve d'enfant, hélas, a été enfoui et un autre métier est venu. C'est intéressant de revenir à ces rêves d'enfant, oui.
Complètement. Et moi, j'ai déjà eu certaines personnes en coaching qui me disaient, par exemple, quand j'étais jeune, je rêvais d'être pharmacienne. Et en réalité, elles me disent, non, aujourd'hui, je ne me verrais pas faire ça. Mais en fait, ce qui était intéressant de regarder, c'est derrière ce métier-là, qu'est-ce qui te plaisait? Par exemple, aider l'autre, être en contact avec d'autres personnes. Donc, c'est intéressant et qu'on peut retrouver finalement dans d'autres métiers et pas forcément que dans le métier de pharmacien. Donc, ça peut être intéressant de se poser la question. Et à contrario aussi, donc là, on a vu vraiment qu'est-ce qu'on aime profondément. Mais on peut aussi se poser la question, qu'est-ce qui me déplaît ou qu'est-ce qui me rebute profondément?
Oui, ce qui est vraiment rédhibitoire. Oui, ça, il n'y a rien à faire. Pour moi, c'est juste impossible et je ne vais pas accepter ça. Oui. Ça, c'est plus facile.
Oui, c'est vrai. Enfin, ça dépend des personnes.
Donc, oui, c'est vrai.
C'est intéressant de le faire dans les deux sens.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers pas loin. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. À devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Mais on me mettra dans un grand trou, je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
RCF à Amboise, 100.4. À Cheverny, 96.4.
À la bonne heure sur RCF et Radioactive.
Avec Léa Beaurepaire pour aujourd'hui aborder la reconversion professionnelle. On a déjà abordé plein de points et nous en étions à voir ce qui est important, ce que la personne sait faire en termes de compétences, en termes de qualité. Et puis ce qui est rédhibitoire pour elle, qui est vraiment quelque chose qu'elle ne peut pas du tout accepter. Il y a un autre point important, et j'aime beaucoup ce parallèle, parce que quand on a du mal à y voir en soi, en élargissant au monde ce dont le monde a besoin, on peut trouver aussi, je dirais par effet miroir, ce dont on a besoin soi.
Complètement. J'aime beaucoup poser cette question en coaching. Selon vous, le monde a besoin de quoi? Puisque finalement, à travers le monde, c'est moi, je pourrais être utile à quoi et qu'est-ce qui est important pour moi?
Et là, on retourne aux valeurs. On retourne aux valeurs.
Complètement. On retourne aux valeurs. Et du coup, ça peut être intéressant de se poser cette question, de quoi a besoin notre monde actuellement, et après de vraiment décortiquer. Donc, c'est-à-dire de voir qu'est-ce que ça signifie pour vous et comment ça se traduit. Donc, si je donne un exemple, si vous me dites, par exemple, le monde a besoin de bien-être. Donc, bien-être, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Donc, la personne, elle peut me répondre bien-être physique, bien-être mental. Et par exemple, pour elle, le bien-être physique, ça va se traduire par faire du yoga, de la méditation. Donc, c'est vraiment par rapport à elle, sa vision. Par exemple, le bien-être mental, ça peut être voir un psychologue, voir un thérapeute ou des choses complètement différentes. Donc, en fait, quand on fait vraiment ce travail de qu'est-ce que le monde a besoin selon nous, des métiers peuvent aussi, en fait, ressortir. Puisque la personne, elle parle vraiment de sa vision et de ce qui est important pour elle.
Tout à fait. C'est un beau parallèle et je trouve que ça peut être un bon exercice, effectivement. Une reconversion, on l'a vu, ça se prépare, il y a tout un tas d'étapes et on en a vu déjà un certain nombre. Et ce qui est important, évidemment, comme j'allais dire pratiquement ultime étape, c'est je suis aujourd'hui, puisque c'est une reconversion ou une transition, comme vous l'avez dit, je suis dans un métier, j'envisage d'en changer. Comment se fait ce passage?
Complètement. Alors, le passage est vraiment différent d'une personne à une autre. Et c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire un grand saut dans le vide en vous mettant dans une situation personnelle qui peut être délicate pour vous. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être possibles. Donc, si vous voulez vraiment vous reconvertir et arrêter, par exemple, le salariat, donc si on est vraiment dans le cadre de l'entrepreneuriat, avec votre employeur actuel, vous pouvez faire plusieurs choses pour vous assurer le chômage, donc au moins une sécurité financière. Donc, vous pouvez par exemple négocier une rupture conventionnelle. Donc, en fonction de votre situation, je vous conseille de vous faire accompagner sur ce point-là, si vous le pouvez. Moi, pour les personnes que j'ai accompagnées sur ce point, j'accompagne jamais de la même manière en fonction de la situation de la personne. Parce que des fois, il peut y avoir des éléments qui peuvent être problématiques dans l'entreprise qu'on peut utiliser pour appuyer le départ. Des fois, il n'y a pas besoin. Donc, chaque départ est vraiment différent. Mais c'est vrai que si vous négociez une rupture conventionnelle, vous pouvez partir avec une certaine somme et vous assurer le chômage donc pendant quand même de longs mois. Et pour se lancer, c'est quand même très confortable.
C'est une sécurité non négligeable.
Voilà. Et étant donné que les conditions, au niveau de la rupture conventionnelle, ça a été un petit peu durci au niveau du forfait social, c'est-à-dire la charge de l'employeur. Il y a une volonté du gouvernement de durcir les ruptures conventionnelles. Ça peut être intéressant vraiment de se faire là parce que c'est pas forcément évident de seul. Vous avez aussi un dispositif qui est la démission pour création d'entreprise qui a été mis en place. Donc ce dispositif, il vous assure le chômage et c'est vraiment un cas spécifique de démission ou vous avez le droit au chômage. Donc en fait, il faut simplement monter un dossier qui va passer devant une commission. Donc il faut être en poste à ce moment-là. Mais c'est pas un dossier qui est très compliqué. En fait, ce qu'on vous demande, ça va être de faire un business plan, un business model, mais assez simplifié pour que la commission, le jury qui regarde votre dossier ait une idée quand même, grosso modo, de ce que vous voulez faire.
Il y a peut-être quelqu'un dans l'entreprise qui pourra aider au niveau RH ou autre.
Oui, bien sûr.
Ça fait des grands mots tout de suite quand même de...
Oui, alors, vous pouvez trouver si ça peut...
Faire son business plan, j'imagine des réactions. Ouh là là, dans quoi je m'embarque ? Non, mais il y a des modèles très très simplifiés. Hein.
Oui, il y a des modèles très simplifiés et dans tous les cas, vous pouvez trouver ce document sur Internet hein, en tapant voilà. Document d'émission pour reconversion. Donc, vous verrez en fait ce qui vous est demandé et les questions, c'est pas forcément très poussé. Hein. C'est plus une idée du projet, comment vous voulez le mettre en place. On va pas vous demander vos chiffres, les chiffres que vous voulez réaliser sur 10 ans. Voilà, on ne cherche pas à lever des fonds pour une start-up, donc c'est pas non plus... c'est faisable. Honnêtement, c'est réalisable. Et ça vous permet d'avoir le chômage. Donc, si votre rupture conventionnelle, elle est refusée, vous avez quand même ce dispositif-là qui est intéressant.
Bien. Et autre chose par rapport à comment on peut préparer son départ par rapport à l'entreprise dans laquelle on est.
Alors complètement, alors on a aussi des aides qui sont là pour se former et pour se lancer. Donc par exemple, on a le dispositif Transition Pro, donc Transition Professionnelle. Donc il y a un dispositif qui permet à un salarié du secteur privé d'acquérir de nouvelles compétences en vue de changer de métier. Donc que vous soyez en CDI, en CDD ou même en contrat intérimaire. Transition Pro, il contribue au financement et au coût pédagogique de votre formation et du maintien de votre rémunération. Donc c'est quand même très intéressant. Alors, il faut remplir quelques conditions d'ancienneté, justifier de 24 mois d'activité, par exemple, quand vous êtes en CDI. Mais honnêtement, c'est faisable. Et vous avez quand même ce dispositif-là qui prend en charge votre formation. Donc, on sait aussi que les formations ont quand même un certain coût qui peut être de 5 000, 8 000 euros. Voilà, c'est quand même des sommes qui peuvent être importantes. Donc, ce dispositif-là permet de le prendre en charge. Donc, c'est quand même génial si vous voulez acquérir de nouvelles compétences. Vous avez aussi votre CPF. Donc, qui peut être intéressant. Donc,
alors, expliquez ce que c'est pas évident pour tout le monde à l'antenne, le CPF.
Oui, bien sûr. Alors, c'est le compte professionnel de formation. Voilà. Donc, vous avez un compte en fait qui est
alimenté par l'entreprise.
Tout à fait alimenté par l'entreprise. Donc, vous allez avoir de l'argent dessus chaque année. Et donc, vous avez cumulé de l'argent et vous pouvez financer une formation. Donc, il faut que la formation soit dans la barre de recherche du CPF, mais c'est totalement faisable. Enfin, il y a beaucoup de formations.
L'émission qui fait du bien à la bonne heure sur Radioactive et RCF.
Bien, alors nous en sommes vraiment à la phase ultime, concrétisation du départ, comment je prépare ce départ par rapport à mon emploi actuel. Et on a commencé à aborder les aides au niveau de l'entreprise pour la première étant cette transition professionnelle, comment elle peut s'opérer. Et il y a d'autres dispositifs, bien sûr.
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que votre employeur a aussi des budgets de formation donc dans son entreprise. Donc, vous pouvez aussi demander à votre employeur le financement d'une formation. Et même si ce n'est pas une formation qui correspond à votre métier actuel, il peut accepter. Donc, pareil, ça vous fait quand même des sous qui sont économisés et qui peuvent être pris en charge. Donc, après, il faut l'accord de l'employeur, mais ça, vous pouvez aussi le négocier. Donc, ça peut être intéressant. Ensuite, avec Pôle emploi, vous pouvez aussi cumuler votre chiffre d'affaires avec vos indemnités chômage, donc quand vous vous lancez. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ça dépend du statut de votre entreprise, puisqu'il y a différents statuts, forcément, micro-entreprise,
alors attendez, etc. Là, vous m'avez perdu votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire, parce qu'on parle de quelqu'un qui est en emploi indépendant, non ? Pourquoi vous parlez de chiffre d'affaires, là ?
Ah, alors c'est quand vous avez quitté votre travail.
D'accord.
En fait, en fonction du statut de votre société, il faut bien sûr avoir le Pôle emploi, donc avoir rempli les conditions avant, donc vous êtes parti. Et en fonction du statut de votre société et aussi du moment où vous avez créé votre société, bon, c'est un petit peu technique, mais vous avez la possibilité de cumuler votre chiffre d'affaires et la totalité de votre Pôle emploi. Donc par exemple, si je prends la micro-entreprise, donc le statut le plus petit entre guillemets, si, donc ça c'est un cas très particulier, mais bon, je l'aborde quand même. si vous ouvrez votre entreprise avant de partir de votre emploi, vous partez de votre emploi et ensuite Pôle emploi vous verse des aides, ben là, vous cumulez les deux. Si vous l'ouvrez avant votre micro-entreprise. Par contre, si vous l'ouvrez au moment où vous avez vos aides Pôle emploi, là, vous cumulez pas. Et votre chiffre d'affaires va se déduire de vos aides. Donc, si vous l'ouvrez juste avant, ça peut être très intéressant. Moi, je connais des personnes qui l'ont fait pendant 2 ans. Alors maintenant,
oui,
le chômage a été revu.
Oui, le temps que le chiffre devienne suffisant pour en vivre, c'est important de pouvoir cumuler les deux.
Voilà. Alors, pendant 2 ans. Alors maintenant, c'est plus 2 ans de chômage. Ça vient d'être revu. Mais en tout cas, pendant 2 longs mois, vous pouvez très bien avoir votre chômage, la totalité de votre chômage plus votre chiffre d'affaires, donc c'est quand même hyper intéressant puisque vous pouvez mettre dans votre trésorerie. Donc ça, voilà, c'est un cas spécifique pour vraiment la micro-entreprise. Après, pour les autres statuts d'entreprise, alors je ne vais pas rentrer dans le détail.
Parce que non, parce que normalement, on est parti pour 2 heures et
ouais.
On ne peut pas.
Je ne suis pas non plus spécialisée en droit des affaires, mais vous n'avez pas forcément besoin d'ouvrir avant pour d'autres statuts d'entreprise et vous pouvez cumuler les deux. Donc c'est quand même hyper intéressant. Vous pouvez vous débrouiller pour mettre de l'argent de côté. Et ensuite, une fois que vous vous êtes lancé, ce qui est important aussi de se dire, c'est que bah, vous n'êtes pas seul, parce qu'on peut aussi ressentir une solitude si on se met à son compte. Et vous avez beaucoup d'associations, de regroupements en fait, d'entrepreneurs qui sont un peu partout en France. Et notamment, vous avez par exemple Femmes des Territoires qui existe.
Tout à fait, il y en a dans notre secteur.
Voilà, donc c'est vraiment un réseau national et après local de femmes. Et vous pouvez adhérer, je crois que c'est 60 euros l'année, donc c'est quand même dérisoire. Au niveau du prix, et vous pouvez justement accéder à plein de formations de manière gratuite. Donc, je ne sais pas comment vendre ses services, comment communiquer, et vous pouvez rencontrer de super entrepreneurs, vous pouvez échanger.
Je pense à un exemple, là, justement, de rencontres mensuelles entre jeunes entrepreneuses, alors, pas jeunes en âge, jeunes dans l'entreprise, la création d'entreprise, et ce partage d'expériences est très, très intéressant et très porteur pour apporter pour chacune, ou chacune, on est dans les femmes de territoire, parce que justement, l'une va pouvoir avoir rencontré cette difficulté-là, ou cette facilité-là, et en faire partager son expérience aux autres.
Complètement. Donc, en plus, ça a plein de bénéfices puisque c'est hyper riche sur le plan humain. On rencontre de nouvelles personnes. On apprend aussi des parcours de vie qui sont très différents des nôtres. Et effectivement.
Et on fait connaître son entreprise.
On fait connaître son entreprise. Donc, on fait du réseau. Et effectivement, chaque personne a des compétences différentes. Donc, en fait, c'est vraiment un apport mutuel. Et si, par exemple, vous avez envie de communiquer, mais vous savez pas forcément comment faire, vous pouvez avoir quelqu'un qui, elle, va avoir l'expérience nécessaire, donc va pouvoir vous guider ou à travailler avant, par exemple, dans le secteur de la communication. Voilà, si vous voulez, par exemple, créer votre site internet, vous pouvez avoir des développeurs web. Donc, c'est très intéressant puisque ça constitue vraiment un maillage, un réseau. C'est un apport mutuel et ça permet aussi de rompre quand même la solitude si vous êtes dans le cadre de l'entrepreneuriat, puisque c'est vrai qu'on passe quand même beaucoup de temps seul. Et c'est vrai que quand avant, on a l'habitude de travailler en équipe, il peut y avoir un petit décalage à ce niveau-là.
Tout à fait, ça c'est important. Est-ce qu'il y a encore, avant que se termine notre émission, des aides auxquelles vous pensez
Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder, alors je ne connais pas bien ce sujet-là, mais au niveau régional aussi, des aides qui peuvent être apportées.
Le département, la région, oui, tout à fait.
Voilà, tout à fait. Donc, en fonction de votre statut d'entreprise, de ce que vous voulez créer, je sais que chaque région aussi peut apporter son soutien. Donc, ça peut être intéressant.
La Chambre des métiers aussi.
Voilà, tout à fait. La Chambre de commerce et de l'industrie, la Chambre des métiers. Ça ne coûte rien, en fait, d'aller voir, de prendre rendez-vous. Et si on peut vous accompagner en plus, c'est toujours ça de prix. Donc,
oui, tout à fait. Ça, ils le font très, très bien, oui.
Voilà.
Tout à fait.
Donc,
c'est intéressant, ça.
Voilà, c'est vrai qu'on a... De mon point de vue, on a quand même la chance en France d'être accompagné par rapport à certains autres pays où il n'y a vraiment pas d'aide, le dispositif de chômage n'existe pas. Donc, ça peut quand même être intéressant de se renseigner de chez soi.
Super. Écoutez, c'était très, très riche. Merci beaucoup, Léa. Je crois qu'on a fait un portrait, c'est pas un portrait, mais en tout cas, on a brossé un tableau très enrichissant. Et j'espère que les auditeurs en auront des bénéfices. Est-ce que vous pouvez conclure sur quelque chose? Alors, comment on peut vous contacter? Vous êtes basé à Paris, mais vous travaillez par visio. Voilà.
Oui, tout à fait. Alors, vous pouvez me contacter soit via Instagram ou TikTok, @leab.coaching, ou sur LinkedIn, donc vous tapez Léa et mon nom de famille, donc Beaurepaire, ou par mail, @lea.beaurepairepro@gmail.com. Et je conclurai juste sur ce mot-là. Posez-vous la question, ça peut être intéressant. Vous fermez les yeux, vous vous détendez, vous vous demandez quand vous aurez 80 ans et que vous serez assis sur votre banc, qu'est-ce que vous avez envie de vous dire par rapport à votre vie et à votre vie professionnelle. Ça peut être intéressant de se poser la question.
Super conclusion. Merci beaucoup, Léa. On se retrouve, Evelyne, le mois prochain. Passez une belle journée. Au revoir.
Merci, Evelyne. Au revoir.
Merci. Merci, Léa.
La Touraine dans la